c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, bonjour les ados, bonjour les parents qui nous écoutez. On reçoit de plus en plus de retours et de questions, c'est agréable. Aujourd'hui, on va parler, dans Nos Adorés, sur Radio Judaïka, on va parler de l'orientation. Vaste sujet s'il en est. Pour ce faire, on va recevoir Yolande Gueyère, qui était déjà venue nous en parler une fois et qui est coach en évolution professionnelle. Bonjour Yolande.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, très bien, merci. Donc Yolande, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste ta profession ?
Oui, alors donc je suis coach en évolution professionnelle, oui. C'est-à-dire que j'accompagne les jeunes et les un peu moins jeunes dans leurs questionnements pour l'avenir. Je les aide à trouver leur place, à se constituer leur place dans le monde professionnel. Pour les jeunes notamment, c'est les accompagner pour identifier les métiers, les pistes de métiers qui pourraient leur plaire, les univers professionnels dans lesquels ils s'épanouiraient, pour ensuite définir ensemble un parcours de formation qui permet d'accéder aux différentes pistes identifiées.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas partir de la profession qui pourrait plaire aux jeunes et tu vas remonter le fil pour l'aider à trouver ce qu'il peut faire en amont pour arriver. Parce que c'est vrai que souvent, on leur demande de faire des choix d'orientation. Et comme ils n'ont pas du tout la moindre idée de comment arriver là où ils veulent arriver, toi, tu les aides en fait à définir ça.
Oui, tout à fait. Commencer à se projeter dans l'avenir, dans le monde professionnel, ça permet d'allumer le moteur, entre guillemets, de trouver la motivation nécessaire pour faire des études qui peuvent parfois être complexes. Et donc, de savoir où on va, ça donne un objectif, un but. Et donc, ça donne du sens aux études.
Tout à fait. Et comment on devient coach en évolution professionnelle ?
Par le hasard des rencontres. En fait, pour ma part, j'étais en école d'ingénieur, responsable communication et admission.
D'accord.
Et au contact de ces jeunes, en fait, je me suis rendu compte que, alors qu'ils étaient sur le point d'entrer sur le marché du travail, ils étaient encore désorientés. Ils ne savaient pas forcément comment se vendre, comment vendre leurs compétences, comment valoriser leur parcours à travers leurs outils de communication, entre guillemets, leur CV, leur profil LinkedIn, etc. Et puis, donc, ils ne savaient pas, comme c'était une école généraliste, ils ne savaient pas non plus vers quelle spécialité s'orienter, comment aborder les entreprises. Ça m'a vraiment touchée, interpellée. Et pendant les pauses, ils venaient me voir pour montrer leur CV, avoir un avis extérieur. Personnellement, j'avais beaucoup de plaisir en fait, à les accompagner dans ce questionnement. Et en échangeant avec une amie qui est coach, je me suis rendu compte que c'était un métier.
Oui.
Et elle m'a proposé de me tester sur le terrain. Et donc, c'est par la pratique que je me suis rendu compte que la suite de mon parcours professionnel n'était plus dans la communication des entreprises, mais plutôt au côté
de l'humain. C'est ça, c'est que tu étais pendant 10 ans dans le marketing, tu nous avais dit lors de la première émission.
Oui. Mm-hmm. Voilà, 10 ans dans le marketing, la communication. Et puis, à un moment donné, ça faisait plus de sens. J'avais envie de valoriser l'humain plutôt que des produits.
D'accord. Parfait, merci.
Merci à toi.
La première rubrique, peut-être ?
Oui.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique.
Et vous, quel ado étiez-vous ?
Une ado qui ne faisait pas de vagues, tu nous avais dit dans la première émission. Moi, ça m'interpelle toujours. Je ne sais pas, je ne les connais pas, ces ados-là. Quand j'en rencontre un, j'essaye toujours de l'analyser un peu.
Ouais. En fait, ma mère me disait toujours que... Enfin, plus tard, elle me disait, oui, toi, ça va, tu faisais pas forcément les 400 coups, mais je choisissais en général des petits copains qui, eux, faisaient la crise d'adolescence pour moi.
Je vois. Ouais, je vois. Tu faisais partie d'une fratrie ?
Non, je suis enfant unique. Bouhou.
Moi aussi. On survit.
Oui.
On survit plutôt pas mal, d'ailleurs. Mais toi, donc, tu n'étais pas celui qui allait au casse-pipe, comme on dit.
Ouais.
Pas mal. C'est une sacrée stratégie, ça. Non, mais je vois. Moi, j'étais celle qui allait au casse-pipe. Merci Yolande. Alors donc, on va commencer donc à parler orientation, puisque c'est pour ça qu'on est là. Comment est-ce qu'on peut aider un ado à dessiner son profil en vue de l'orientation ?
Comment l'aider ? J'ai envie de dire en lui faisant confiance, en lui donnant des clés de connaissance de soi, en l'interrogeant sur ses centres d'intérêt, ce qu'il anime dans la vie, quelles sont les valeurs, les causes qu'il a envie de défendre peut-être, en lui faisant prendre conscience de toutes les compétences qu'il a, toutes ses qualités, son mode de fonctionnement. Et puis, au fur et à mesure, en faisant le parallèle avec des univers professionnels, des métiers, sachant qu'ils bougent très vite, de plus en plus vite, et oui. On ne sait pas quels seront les métiers de demain. Mais justement, c'est de lui permettre une ouverture sur le monde professionnel, l'inviter à rencontrer, à échanger peut-être avec des professionnels dont les parcours sont inspirants pour ce jeune, et confronter à la fois ses rêves avec des réalités pour voir, pour affiner son projet. Et ma conviction, c'est qu'à force d'associer travail d'introspection avec découverte du monde professionnel, au fur et à mesure, les pistes se dessinent. Et du coup, ça lui donne des clés pour avancer en conscience vers des métiers qui l'intéressent.
Oui, exactement. Et en tant qu'enseignante, j'ai enseigné pendant presque 10 ans à l'étranger, j'ai le sentiment, entre les premiers étudiants que j'ai eus, les premières classes de terminale que j'ai eues et les dernières, qu'il y a une sorte d'évolution dans le souhait de carrière. C'est-à-dire que, je m'explique, il y a 10 ans, le but, c'était de gagner de l'argent. Maintenant, c'est plus du tout ça. Le but, c'est de s'épanouir. Le but, c'est d'aider l'autre, de s'investir dans des causes qui leur ressemblent. Et ça, c'est je ne sais pas si ça étonne les parents, mais en tout cas, c'est assez beau parce qu'on a des jeunes de plus en plus humanistes.
Oui, c'est vrai.
Tu le ressens, toi ?
Ouais. Alors, il y a toujours encore ces profils-là qui disent, moi, mon objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent, peu importe comment.
Ah oui, c'est pas honteux.
Non, du tout. Hein. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes, de jeunes, qui ont envie de défendre une valeur qui leur est chère, une cause.
Oui.
Ils sont de plus en plus conscients de l'état de la planète et ils ont envie d'agir aussi pour l'environnement. Alors, je ne sais pas si c'est... une question d'affinité, et du coup, j'ai la chance d'attirer ce type de gens-là, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il y a vraiment une vraie conscience, en fait, un vrai souci écologique.
Ont-ils le choix ?
Non, on leur laisse peut-être pas trop le choix.
Pas trop laisser le choix non plus, mais c'est vrai qu'il y a une vraie conscience.
Ouais.
Par contre, on a quand même encore toujours cette espèce de mythe des mathématiques et de l'opposition matheux-littéraire. Tout ça, tu le ressens dans les demandes des ados ? Je suis matheux, je suis littéraire, je vais rater ma vie.
Je dirais que c'est plus la perception des parents qui restent encore sur ce modèle.
Ah oui.
Qui pousse vers les matières scientifiques en disant qu'avec ça, ça ouvre les portes de tout. Les jeunes, je crois, s'acceptent plus dans leur diversité, dans la diversité de leur centre d'intérêt, de leurs compétences, de qui ils sont. Je pense que pour eux, c'est moins un souci. C'est plus sur nos générations qu'on reste encore un petit peu dans ce modèle-là. Et donc, c'est peut-être plus les parents qui sont à convaincre de dire « Mais si, je vais y arriver, même si je choisis des études, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi en philo, t'inquiète. Je m'en sortirai, je serai autonome, je vais m'épanouir dans mon travail. »
D'accord. Et justement, on peut peut-être aussi signaler aux parents que forcer une orientation, c'est jamais positif.
C'est sûr, à titre personnel, est-ce qu'on aurait aimé, nous, que nos parents fassent...
Mais ça a peut-être été le cas.
Ça a peut-être été le cas,
et du coup, ils se disent, bon, ben voilà, finalement, ça ne s'est pas passé si mal que ça pour moi, donc pourquoi ne pas forcer ?
Ouais, bah, par respect pour soi, pour son enfant. Je ne sais pas, c'est une question un peu complexe, quoi, mais enfin, j'ai peur de ne pas trouver les mots justes. Pour moi, c'est plus une question d'éthique. Alors, c'est sûr que des fois, on aimerait choisir, on aimerait se rassurer en se disant « Mon fils fera le parcours que j'ai rêvé pour lui ou que j'ai rêvé peut-être pour moi. » Mais je pense que c'est important d'écouter le jeune et de voir vraiment avec lui ce dont il a envie pour qu'il soit motivé, pour qu'il donne du sens à ses études et qu'il s'épanouisse plus tard. Et je pense que c'est le but de chaque parent, c'est de voir son enfant s'épanouir. Donc pour ça, lui donner les moyens, c'est une bonne chose, je pense.
Oui, c'est vrai. Donc là, on est en janvier. À quel moment faut se réveiller pour Parcoursup ?
Tout de suite.
Maintenant, là, en janvier, oui. Avec les vœux.
Exactement.
D'accord. Et que faire si finalement aucune de nos orientations n'est validée sur Parcoursup ?
Il y a différentes façons de faire. Soit, je sais pas, j'ose imaginer qu'il y a quand même des portes qui s'ouvrent, soit de se dire, ok, pendant une année, j'explore, j'expérimente, et puis je vais vers la filière qui m'accepte. Ou on peut se dire aussi, tiens, dans ce cas, je fais une année où je me lance sur le marché du travail, j'expérimente, ou bien je pars faire un service civique.
Ouais, il y a d'autres options, et ça, pareillement, on peut venir et en parler avec toi.
Oui, tout à fait.
Moi, je suis une grosse adepte des années sabbatiques, enfin des gap year, comme on appelle ça en anglais, parce que ça n'a pas vraiment la même signification. C'est partir une année pour faire du travail du bénévolat, de l'humanitaire, etc. C'est pas je vais boire des cocktails dans une piscine sur un matelas gonflable pendant un an, c'est pas du tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut positiver un parcours, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être n'arrivait pas à sortir du lot, sortira du lot après une année dite sabbatique en français ?
Oui, pardon. Ça permet de se différencier, effectivement. Le tout, c'est de savoir valoriser cette expérience, d'en parler positivement, d'en extraire les compétences qui ont été développées lors de cette expérience. Et par contre, juste un point de vigilance, peut-être, c'est de se dire... d'anticiper aussi autant que possible le retour et de prévoir justement qu'est-ce que je
ne
ferai.
Ne pas partir pour s'échapper, exactement. Mais partir pour construire quelque chose.
Voilà, ouais. Ouais.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Ouais. Et de savoir qu'est-ce que je choisis pour la suite. Alors, à mon retour en France, qu'est-ce que je ferai ? Est-ce que je me réinscris dans des études ? Est-ce que je me lance sur le marché de travail ? Peu importe.
Parce que toi, tu es confrontée à des ados qui décident d'abandonner les études ?
Oui, ça arrive, ouais.
Ouais.
Oui, et
je pense que là, il y a une grosse inquiétude.
Oui, inquiétude partagée, en fait, par le jeune et puis aussi par le parent.
Oui, bien sûr. Oui, donc une année sabbatique, si elle a du sens, elle peut tout à fait apporteuse dans un parcours.
Oui, tout à fait.
Mais comment apaiser les parents qui ont peur, un, de voir partir l'enfant du nid, deux, de le laisser, aller vers une expérience professionnelle avec toutes les peurs que ça génère. Et alors, quand c'est à l'étranger, ça fait beaucoup.
Oui. Et en même temps, c'est d'une telle richesse. Y a un texte de Khalil Gibran qui est juste magnifique à ce propos.
On va parler de l'enfant qui est du cadeau du cadeau de la vie à elle-même ou quelque chose comme ça.
Non, pas celui-là.
C'est pas celui-là. Non, parce qu'il m'a fait beaucoup de bien à un moment.
Oui, alors je sais pas si c'est opportun de le lire.
Mais c'est toujours opportun de lire Khalil Gibran, hein.
Allez.
Voilà.
Bon, en deux mots, j'essaie d'aller vite. Alors, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent à travers vous et non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas, vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées, vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas à les faire comme vous, car la vie... ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes des arcs... c'est ça, oui, pardon, je suis troublée. Je l'ai imprimé un peu trop petit. mes yeux faiblissent. Vous êtes des arcs qui, par vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.
Oui, et du coup, c'était quand même dans ce poème-là qu'on trouvait « L'enfant est un cadeau de la vie à elle-même ». Mais c'est juste que c'est un petit peu plus loin. Donc, oui, à part Khalil Gibran, qu'est-ce que toi, en tant que coach, tu peux apporter quand il y a une grosse opposition ado-parent quant à l'orientation ?
Alors, en général, les familles qui viennent me voir ont le souhait, l'envie de construire ensemble, d'avancer dans leur relation, dans la question de l'orientation de leurs jeunes. Et donc, il y a certes parfois des tensions dans les échanges ou des fois des petits pics qui sont lancés ça et là. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt optimiste. Les parents et leurs jeunes trouvent un terrain d'entente et trouvent au sein du cabinet un terrain neutre dans lequel ils peuvent s'exprimer librement et exprimer à la fois leurs envies, leurs craintes. Et pour souvent se rendre compte que finalement, l'envie est la même. C'est, comme dit, trouver ses solutions, ses clés d'orientation et pour finalement aboutir sur un épanouissement du jeune dans sa vie future.
Et là, on a parlé de Parcoursup, on a parlé... Bon, voilà. Mais à partir de quel niveau, quelle classe plutôt, toi, tu peux intervenir ?
C'est dès qu'il y a un besoin qui est exprimé, dès que le jeune le souhaite, dès qu'il commence à se poser des questions pour ses choix d'orientation, dès que... il a ce besoin de se projeter dans l'avenir, dans le futur.
Donc, tu as même des collégiens qui s'adressent à toi.
Oui, de plus en plus.
Ah oui.
Du fait de la réforme du bac, il y a des options qui sont à prendre très rapidement, finalement. Les collégiens commencent déjà à s'en inquiéter et à se dire on va bientôt me demander de me positionner par rapport à des choix d'études, ce qui implique de savoir ce que je voudrais faire plus tard, mais j'en ai strictement aucune idée. Et donc, ça peut être source d'angoisse aussi pour les jeunes. Et donc de trouver là un terrain neutre où ils vont pouvoir explorer et trouver leurs propres réponses En général, c'est plutôt positif pour eux et ça les remet en confiance. Ça leur permet de rebooster leur estime de soi et de repartir
apaisé.
Confiant. Ouais. Mmh.
Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est parents qu'on a les compétences, entre guillemets, pour parler d'orientation avec nos enfants.
On est à la fois les mieux placés en tant que parents et les moins bien, parce qu'on est dans cette période d'adolescence où ça devient un peu touchy de parler de certains sujets avec son ado.
C'est vrai.
Et on pense tout savoir de lui. Or, y a parfois son petit jardin secret qui est là aussi.
C'est même souhaitable.
Ouais. Et donc, c'est bien d'avoir aussi un regard neutre, une personne qui est là pour écouter et pour accompagner... ses questionnements et puis de l'aider à exprimer finalement toute la variété de qui il est.
Oui, puis si on rajoute par-dessus ça les différentes réformes auxquelles ils sont confrontés, moi je comprends qu'ils soient angoissés les ados.
Oui.
Par contre, on a parlé là récemment dans une émission de radio que j'écoutais du burn-out adolescent. Est-ce que toi tu as déjà été confronté à quelqu'un qui était tellement angoissé par sa scolarité qu'il allait finalement y perdre son âme pour schématiser?
Oui, alors j'ai croisé quelques profils effectivement d'ados qui étaient très très angoissés. Et quand par exemple il avait du mal à verbaliser les choses, je lui ai proposé de passer par le média du dessin.
Ah oui.
Et quand il devait représenter en fait le gap de savoir comment faire, alors pour passer de l'état présent à l'état désiré, son avenir, il a dessiné une sorte de gros brouillard et tout. C'était assez représentatif de son état intérieur et impressionnant, quoi. Et dans ces cas-là, moi, j'avoue ne pas être la mieux armée pour ça. Si le mal-être est trop prégnant, trop présent, j'invite à consulter peut-être d'autres professionnels qui sont plus spécialisés.
Tu peux orienter aussi vers un suivi psy.
Par exemple. La maison des ados qui fait un très bon travail
aussi. Tout à fait. On les a contactés, et ils vont venir nous voir, ils vont parler un peu de tout ce qu'ils font, parce que c'est vrai que c'est malheureusement un peu méconnu à Strasbourg, la maison des ados, alors qu'ils sont très très actifs. Merci beaucoup Yolande. Alors, on va tout de suite passer à la rubrique suivante.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique
Question d'ado. Donc là, on a un jeune homme qui est en seconde, et qui a été orienté en seconde générale, alors que lui, il voulait faire une seconde professionnelle. Hashtag les parents, et qui voit ses résultats chuter malgré le mal qu'il se dote pour rester autour de la moyenne. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Venir te voir déjà.
Ouais, ça peut être une bonne chose.
Voilà.
Et puis de s'autoriser à parler à ses proches justement de ce questionnement, de savoir si c'est vraiment pertinent de poursuivre dans cette voie, ou si cette petite voix intérieure pourrait pas être écoutée aussi. Et je pense que c'est toujours important de tenter sa chance, de postuler justement dans les filières qui intéressent. Et après s'être bien sûr bien renseigné sur les tenants et les aboutissants, et ne pas se laisser dépérir dans une filière dans laquelle on ne s'épanouit pas, quoi, ce serait dommage.
Puis au-delà de ça, être noyé dans la masse d'un bac général, un bac un peu médiocre, j'ai envie de dire, le dossier ne ressortira pas de la masse, alors que si peut-être il fait une seconde pro ou quelque chose qui le passionne, à ce moment-là, il sera le meilleur dans sa section. Et finalement, ça valorisera l'ensemble, quoi qu'il arrive, et son estime de lui-même particulièrement.
Oui.
C'est important de penser à l'estime de soi à cet âge-là où on est vraiment en recherche. Et c'est vrai qu'être, entre guillemets, nul en classe, pour l'estime de soi, c'est pas évident.
Ouais, et d'autant plus que dans le cursus habituel, on valorise tout ce qui est intelligence verbale, linguistique, tout ce qui est mathématiques aussi.
Oui.
Or, il y a plein d'autres compétences encore qui peuvent être déployées et utilisées. C'est juste qu'elles sont pas trop présentes et valorisées dans le cursus traditionnel.
C'est ce que nous dit la jeune fille de 16 ans qui nous pose la question suivante. C'est qu'elle nous dit qu'elle n'ose pas présenter son dossier pour une école publique renommée. Je crois savoir de quelle école il s'agit. Elle souhaite savoir, à part les notes, qu'est-ce qui fait la différence dans un dossier, d'après toi? Alors ça peut être ton opinion à toi. Ouais. Et voilà.
Alors, j'avais fait moi-même un peu de recrutement quand j'étais dans cette école d'ingénieur.
Oui, donc tu sais.
Je ne prétends pas savoir pour toutes les écoles, mais je sais que là, on regardait aussi la motivation, en fait. La lettre de motivation, le dossier, et puis en entretien, on voyait bien aussi s'il y avait les yeux qui brillaient ou pas. Tout dépend des modalités d'admission de ces écoles. Je ne sais pas de laquelle elle parle.
Elle ne l'a pas précisé.
Oui, mais donc parfois, effectivement, la motivation peut être valorisée et opportune pour mettre en avant sa candidature au-delà de ses notes, etc.
Après, est-ce qu'on peut parler aussi du fait de, je ne sais pas, justement, tout ce qui est travail de type humanitaire, stage, même la musique, les arts, tout ce qu'on fait en dehors de la notion scolaire,
oui,
peut apporter un dossier. Si on en parle justement avec les yeux qui brillent,
ouais,
et la voix qui vibre,
ouais, clairement.
Ça peut marcher. Mais pour ça, il faut déjà avoir passé la première sélection et se retrouver, disons, à l'entretien.
Oui.
Oui. Pour ça, nous, on n'a pas de baguette magique.
Non, j'aimerais bien, mais non.
Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aimerais bien pour d'autres petites choses, parfois. Quelles sont les filières à la mode à l'étranger dans le paramédical en ce moment? Est-ce que tu peux nous citer? Enfin, moi, j'ai pensé à kiné, par exemple.
Oui, effectivement, je croise quelques jeunes comme ça qui s'intéressent à ces métiers de kiné, par exemple, hein, et qui vont soit du côté de Kiel ou en Belgique pour, oui, poursuivre leurs études.
Mm-hmm.
Après, j'avoue ne pas être une spécialiste des formations. Et là, je préfère renvoyer vers l'Espace Avenir, par exemple.
D'accord.
Qui a une meilleure connaissance de quelles sont les meilleures écoles par rapport à un projet, une fois qu'il a été clarifié, défini.
Oui, c'est ça. On peut clarifier avec toi.
Ouais.
Et ensuite, on peut aller à l'Espace Avenir, voilà, et puis se renseigner plus avant.
On défriche en gros ensemble. Et puis après, pour aller affiner encore une fois ses choix, c'est bien d'aller voir ces professionnels-là.
D'accord. Donc, à propos de défrichage, on a donc là une jeune fille qui voudrait devenir fleuriste. Elle dit... Ce n'est qu'un ressenti, en fait. Elle aime ça, elle trouve ça beau, elle a l'impression que ça l'apaise, que ça lui fait du bien. Et elle a demandé à plusieurs fleuristes si elle pouvait faire un petit stage, mais apparemment elle est trop jeune, elle n'a que 15 ans. Elle voudrait savoir comment elle pourrait faire pour découvrir vraiment ce métier.
Y a effectivement les stages qui peuvent aider. Bon, alors j'entends qu'elle est trop jeune, c'est dommage. Et puis sinon, de réaliser des enquêtes métiers, d'aller à la façon d'un journaliste questionner un professionnel, l'observer dans sa pratique, ne serait-ce
sans nécessairement faire un stage, quoi. Ça peut non, être voilà, une ou deux heures.
Ouais. Ou juste de demander une vingtaine de minutes d'entretien, qui,
oui,
en général vont dépasser sur au moins une heure. Ça permet de voir un peu comment ça se passe dans l'arrière-boutique, de savoir qu'est-ce qui est sympa dans ce métier, qu'est-ce qui est plus difficile, etc. Et de se confronter à une vision idéale, ce qui me semble vraiment nécessaire. Parce que si je peux me permettre un rapide exemple...
Bah, allons-y.
J'ai accompagné un jeune qui s'était lancé dans des études pour devenir éducateur. Sans s'être confronté justement à cette réalité, il en avait une vision idéale. Et quand il a été amené à faire le premier stage, là, oups, patatrac, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de violence aussi dans les relations avec les jeunes.
On a envie de faire le bien. Donc,
oui,
on s'imagine que le bien qu'on veut faire sera forcément accepté par l'autre,
ouais,
en face, et ce n'est pas toujours le cas.
Ouais.
Mais ça s'apprend aussi à accepter que tout ne se déroule pas toujours comme on le voudrait. Je pense que pour le métier de fleuriste, c'est pareil.
Mm-hmm.
C'est une gestion d'entreprise. Hein. Il y a de, ouais, la compta, il y a du stock, il y a... Voilà. Tout ça, ce n'est pas que faire un joli bouquet, même si c'est la base et l'essentiel, j'imagine.
Ouais.
Mais après, il y a une entreprise à gérer, il y a des impondérables, des factures.
Ouais.
C'est difficile de se l'imaginer.
Oui, il faut vraiment le voir, le vivre si possible, mais au moins se confronter à plusieurs témoignages pour avoir la vision la plus juste possible. Si je prends brièvement mon exemple, en fait, quand j'étais collégienne, je me questionnais, je me disais, ah tiens, le métier de photographe, c'est sympa, etc. Donc je suis allée,
oui,
voir...
Oui, c'est sympa.
Oui.
Oui, je confirme. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que prendre des photos.
Ouais.
Ouais. Le travail, il est bien, bien, bien plus profond que ça.
Ouais. Mmh. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas encore le numérique, mais il arrivait.
Oui.
Et donc, ce studio photo qui est Place Kléber, qui existe toujours, m'avait dit à l'époque, mais surtout, ne faites pas ce métier parce que nous allons disparaître avec l'arrivée du numérique. Le métier de photographe n'aura plus de sens. On sera tous des photographes, il n'y a plus de développement, etc.
C'est bien
de
pas dramatiser, quoi.
Oui.
Jamais. On dramatise jamais en Alsace. On est toujours dans la nuance.
L'objectivité.
Tout à fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Merci. Il y a un autre petit auditeur qui nous a écrit qu'il est nul en maths. Je dirais, bon, il a des difficultés. C'est ce que je traduis.
Ouais.
Est-ce que c'est une fatalité? J'ai beaucoup aimé cette question.
Difficile de répondre à cette question. Est-ce que c'est une fatalité? Je ne sais pas. Non, je pense au pouvoir du développement.
Oui, il faut peut-être passer juste par d'autres vecteurs pour appréhender les maths, non? Peut-être,
ouais,
que assis en classe face à un tableau, il a des difficultés. Peut-être que si c'est dans la... Je ne sais pas, en faisant une recette de cuisine, il en aura moins. Enfin,
ouais.
Non?
Oui, oui, oui. Expérimente d'autres façons de voir les choses.
Ouais, rencontre, c'est ça.
Moi, je sais que j'avais une de mes voisines qui me donnait des cours de maths et qui avait une façon beaucoup plus douce et ludique pour me transmettre ses connaissances. Ça passait beaucoup mieux qu'avec mon prof en cours. Donc, J'ai jamais été brillante en maths, mais j'ai survécu, j'ai assuré la moyenne, quoi.
Très bien, merci Yolande. On va tout de suite discuter aussi du fait que venir te voir, ça ne veut pas dire trahir son ou sa conseillère d'orientation. On a le droit de faire les deux.
Bah oui, ça peut être complémentaire.
Ça peut être complémentaire, ouais. Et tu nous disais donc que toi, tu offres un suivi qui est individualisé.
Oui.
Ouais. Et ça prend combien de séances en général, un parcours avec toi ?
C'est vraiment du sur-mesure, en fait. Moi, je m'adapte aux besoins du jeune.
D'accord.
Autant qu'il a envie d'investir dans son accompagnement, parce que ça vient en complément de ses études, etc. C'est pas toujours évident non plus à
placer
dans un
emploi du temps. Oui, ça peut être lourd d'ajouter ça encore, ouais.
Donc, ça peut aller de 2 heures à une dizaine d'heures, par exemple.
D'accord. Et si on veut prendre contact avec toi, comment on fait ?
Ben, on peut se rendre sur le site internet yolandeguerre.com ou passer un coup de fil.
Merci beaucoup, Yolande.
Merci à toi.
Donc, on va passer à la dernière rubrique.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique
Les ados vous conseillent.
Oui, donc les ados qui sont toujours à la page, vieille expression que plus personne n'utilise. Donc les ados vous conseillent d'aller sur artetv.fr et de regarder les petites vidéos de métiers qui s'appellent « Je voudrais devenir », qui sont des vidéos ludiques qui nous présentent une profession en un petit quart d'heure, et c'est pas des professions classiques. Là, j'ai été voir justement hier soir, donc il y a fabricant de meubles, artiste verrier, éclairagiste. C'est des professions qui sont peut-être un peu méconnues et qui permettent de savoir quel parcours il faut faire et qu'est-ce qu'on y fait dans ce métier. Donc c'est assez intéressant. Voilà ce que vous conseillent les ados. Donc merci encore Yolande d'être venue nous voir.
Merci à toi et à bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,